France Inter.
C'est très lié à la respiration. Moi, j'ai le souffle court. Et quand j'écris, je me donne peu de temps pour arriver au terme d'une phrase. Et donc, quelque part, c'est comme si la phrase faisait la course avec moi. Il faut que j'attrape quelque chose d'elle avant qu'elle s'en aille. Il faut que je la dompte dans le même mouvement.
Quand tu fais du stand-up, c'est super, mais tu écris seul, tu joues seul, t'es responsable de faire rire des gens pendant 1h10 toute seule. Tu prends ton shoot et quand tu sors, ça va mieux. Sauf quand tu fais un bide et que c'est terrible, mais c'est comme une école en fait, c'est comme une salle de sport.
Qu'est-ce qu'une femme éprouve quand elle quitte son compagnon, son foyer, sa fille ? Tressaillir de Maria Porchet étudie un bouleversement intime au scalpel, dans un style vif, avec un réalisme impressionnant. Quelle douleur ce départ provoque-t-il ? Une confusion, une perte de repères, de confort, geste sans doute plus douloureux que libérateur. Bonjour Maria Porchet.
Bonjour.
Tressaillir chez Stock vous offre une place sur la première liste du Goncourt. Ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas quand on sort un livre en septembre.
Non, ça ne l'est pas du tout.
Quel est l'état de votre esprit ?
C'est le contraire de l'anecdote. C'est à la fois on est plus calme et puis on est plus calme en fait. Je ne sais pas ce que ça calme, mais ça calme quelque chose.
Pour quelques temps.
Pour quelques temps, évidemment, jusqu'au 15 octobre.
Voilà, vous avez obtenu le prix de Flore pour Western. Je précise que vous avez déjà beaucoup écrit en 13 ans, si je ne m'abuse. Avant Tressaillir, il y a eu notamment Avancé, Champion, Feu ou Western, pour ne citer que. Votre invitée est une femme qui fait rire. Elle a pratiqué le stand-up, elle joue au cinéma, elle a coécrit la série Jeune et Gaulerie sur OCS. Et c'est elle qui joue Prune, 25 ans, amoureuse d'un homme plus âgé. Bonjour Agnès sur Stel.
Bonjour, je suis ravie d'être là.
On est ravis de vous recevoir, d'autant que vous étiez une chroniqueuse chez Nagui il n'y a pas si longtemps.
Une collègue, oui.
Bienvenue dans le Grand Atelier.
France Inter. Le Grand Atelier. Vincent Josse.
Maria Porchet, vous dites souvent que c'est la chanson qui vous a amené à trouver votre style. Je trouve que c'est très rare d'entendre ça. Je voudrais que vous nous parliez de ce déclencheur.
Alors, je n'ai jamais chanté. Voilà, que les gens se rassurent.
Essayez.
J'ai déjà essayé, c'est sans équivoque.
Mais vous avez en revanche écouté beaucoup de chansons depuis longtemps.
Voilà, en fait, c'est la chanson à texte. Mes parents, alors moi, chez nous, on n'avait pas de télé, on avait la radio et un tourne-disque. Et plus tard, un lecteur CD. Mes parents écoutaient beaucoup de chansons à texte. Et avant même de savoir lire, ça a été un accès privilégié et permanent, parce qu'il y avait beaucoup de musique, on en écoutait beaucoup. Et quand ma mère mettait un album, ou mon père, que ce soit Leonard Cohen, Grim Allwright, Reggiani, enfin, je cite toujours les mêmes noms, mais c'était eux, Brel, Brassens. En général, on l'écoutait en entier, en plus. Donc c'était une cohérence, en plus, dans les albums de ces poètes-là. C'était comme un livre ouvert, et j'avais accès à une poésie, à un lyrisme, à une plasticité des mots que, si j'avais découvert la langue que par la littérature, je l'aurais découvert, ça, mais beaucoup plus tard. Et je me souviens aussi de ce que ça faisait. Enfin, je l'éprouvais, moi, parce que la plupart du temps, je ne comprenais pas ce qui se produisait, mais je n'avais que l'expérience esthétique, souvent. C'était beau, et je ne savais pas pourquoi. C'était ému, je ne savais pas pourquoi. Et j'assistais aussi à certaines émotions des adultes. Et en fait, je voyais, par exemple, que dans telle chanson de Reggiani, les gestes des parents étaient soudain plus calmes ou plus enlevés, si c'était telle chanson de Julien Clerc. Et ça m'a donné une idée très précoce de la puissance du français.
Ça ne vous a pas donné envie d'écrire des chansons ?
Non. Non, c'est...
Marrant que le roman soit venu, parce qu'une chanson, c'est 3 minutes, ouais. 3 minutes 30, c'est une histoire aussi.
Non, mais je ne suis pas très douée pour les formats courts. J'ai déjà...
Vous avez essayé la poésie pourtant ?
Oui. Mais
vous dites que vous n'êtes pas douée.
Non, je n'étais pas douée non plus pour ça. C'était... Il y a trop de mots qui arrivent. L'extrait que vous passiez sur le fait de les dompter, là, pour le coup, ça demande de contraindre les mots dans une forme qui me paraît beaucoup trop de l'ordre du bonsaï, quoi. Ça ne me correspond pas.
Vous trouvez que le style de Maria Porchet est de quelle nature, Agnès Hurstel? Parce que je sais que vous êtes une lectrice de Maria Porchet. Je crois que vous avez adoré Feu.
Feu et Toutes les femmes sauf une sont enfin, quand je les ai lues, j'ai eu l'impression de lire mon cerveau, ce qui arrive de temps en temps dans la vie.
C'est-à-dire de trouver une jumelle?
Une jumelle totale. Le problème, c'est que depuis, j'offre ces deux livres à beaucoup de gens.
Il faut changer un peu.
Une étant radicale sur la maternité et sur la mère, et Feu sur l'adultère, et les gens le prennent mal. Quoi.
Quel est son style? Est-ce que
l'oralité, c'est très 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 oral, t'es dans le monologue intérieur des personnages, enfin, c'était hyper clair dans Feu. Là c'est plus ouvert, il y a plus
c'était
de points de vue,
j'en tressaille.
Il y a quelque chose de... C'est comme dans la vraie vie, ça assume le monologue intérieur qu'on a en soi avant de polisser les choses par convention sociale et...
Avec, effectivement, des ruptures de rythme, des respirations. Vous parliez du souffle dans le début de l'émission. On sent un souffle, quelque chose de saccadé. Est-ce que vous avez envie de ressembler à la vie, si je puis dire, Maria Porchet, quand vous écrivez?
Alors, aussi fa que ça puisse paraître, j'ai pas d'intention. En dehors de celle d'être au plus... de parvenir à formuler ce qui serait tu, non seulement chez moi, parce que si je l'écris, c'est qu'il a été tu à un moment, voire qu'il l'est encore, mais qui serait tu aussi chez les autres, en fait, trouver quelque chose qui relève d'un silence en partage.
Comme si c'était la première fois qu'il parlait ou qu'il disait quelque chose d'eux-mêmes, d'intime.
Oui, peut-être. Peut-être que si... Voilà, oui, c'est ça. Mais en fait, vous en sortez très bien tous les deux à parler de moi, c'est délicieux.
Oui, est-ce que vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît?
Je vais rejoindre l'aquarium.
Vrai, j'insiste beaucoup sur le style de Maria Porchet, parce que c'est la première chose qui frappe, je trouve, quand on découvre votre écriture, puis qui rend un peu addict. Ce souffle, c'est comme si vous écriviez en marchant, comme si vous écriviez...
C'est drôle que cette expression, parce que je...
Chant du mouvement, moi.
J'écris sur les causes du Lot. Une partie de ce livre-là, je l'ai aussi écrit chez mon père dans les Vosges, et je marche, c'est deux endroits où je marche énormément,
c'est-à-dire
j'écris, je marche, et quelque chose de l'écriture se poursuit en marchant, voilà, truc très pascalien. Je parlais de fatuité tout à l'heure, je vais y aller.
Oui, donc voilà. Quand on marche, on peut marcher vite, on peut ralentir, oui. On peut sauter, on peut s'arrêter.
Oui, mais c'est l'analogie qui s'impose, c'est jamais celle à laquelle je pense, mais je suis vraiment une randonneuse depuis toujours, depuis mes... J'imagine mes 3-4 ans, parce que nos parents nous emmenaient dans les Dolomites. Enfin, voilà, les vacances, c'était la marche. Le sport, c'était la marche.
Le quotidien dans les Vosges, c'est peut-être aussi la marche.
Ouais, beaucoup, ouais.
Hein, beaucoup.
Enfin, en tout cas, chez moi, enfant, oui.
Agnès Hurstel, quand on écrit un stand-up, ce que vous ne faites plus maintenant, parce que là, vous êtes en train de terminer un premier film, enfin,
oui.
L'écriture, il est prêt, il faut trouver maintenant de l'argent. Il s'intitulera comment?
Je peux pas...
On n'a pas le droit de le dire. Pardonnez-moi.
J'attendais que ça.
Mais vous avez écrit des stand-up. Hein, le stand-up, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ben c'est un comédien.
Se tenir debout.
Se tenir debout, tout à fait, devant un public, tenter de le faire rire, tout le temps.
En racontant des choses tristes.
Est-ce que là aussi, on a besoin de souffle dans l'écriture, parce que, encore une fois, ça s'écrit, un stand-up.
Le stand-up, le souvenir que j'en ai, c'était plutôt une gymnastique intellectuelle. C'était très physique, la performance, tous les soirs, mais l'écriture était minimale. Enfin, fallait éditorialiser une pensée grosse et la mettre comme une... C'était plutôt comme des bulles de BD. Donc, c'était tout petit. Donc, non. Mais quand j'écris des scénarios, je les dis à voix tout le temps en... Je suis debout et je dis ah ouais, je sais pas faire autrement. Je marche pas parce que j'ai pas l'espace.
Oui, mais parce que
j'aimerais avoir l'espace.
Parce que t'es comédienne aussi. Donc
ouais,
le fait de.
Faut que ça sonne juste.
Ça ne viendrait pas naturellement, moi, de dire ce que j'écris.
Ouais. Ah, pourtant, ton livre, il peut être dit demain sur une scène de théâtre sans rien changer. C'est des scénarios. Enfin, on en a déjà parlé, c'est du cinéma. Quoi.
Agnès, parler de l'oralité, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là? Et est-ce que vous dites aussi vos phrases? Au fur et à mesure, est-ce que ça passe par la gorge, le larynx?
Non, c'est précisément ce que je relevais là. Non, moi je l'ai dit pas. Parfois, je sais que c'est une méthode prisée par beaucoup d'écrivains et je me dis ça peut être bon pour moi. Donc je commence cet exercice du gouloir et qui me paraît tellement artificiel que j'arrête en fait. J'ai un problème avec le son de ma voix. je préfère ce que j'entends moi, ou ce que mon souffle
comme vos personnages.
Répète à l'intérieur.
Le monologue intérieur.
Oui, mais j'ai l'impression de l'entendre aussi bien que je vous entends là, donc c'est...
Quelle chance.
Mais un jour j'ai enregistré...
Elle entend des voix, Maria Porcher. C'est ça devient un bouquin.
Si vous saviez, pas qu'une. Et un jour j'ai enregistré l'audiolibre d'un de mes livres, et j'ai, en même temps j'ai compris l'exercice, l'intérêt de l'exercice. Et je me dis, mais effectivement, si j'avais tout ce temps, ou si j'étais pas si paresseuse et que le livre fini, je le relisais, bah, il serait peut-être beaucoup mieux. Enfin, j'entendais tout ce qui faisait l'arsène, quoi. Alors, mais peut-être que c'est précisément ce qu'il faut laisser. Je sais pas, mais cette expérience, elle m'avait...
Un peu chamboulé, dérouté. Ouais. On va écouter Balavoine qui chante, parce que je sais que ça vous fait plaisir. Et je pense que beaucoup d'auditeurs m'ont retrouvé un peu de leur jeunesse dans cette chanson. Je crois que vous aimez le chanteur en particulier.
Ça faisait partie des chanteurs que mes parents écoutaient.
Ils étaient dans quel état à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils faisaient comme geste?
Non, je crois que c'était assez énergisant. C'était assez énergisant, ouais.
1978, ça vous rappelle des souvenirs, le chanteur Balavoine.
Le grand atelier. Vincent Josse sur France Inter.
Je ne vais pas faire l'émission Maria Porcher sur Balavoine. cette chanson, encore que...
Faudrait en faire une.
Je sens que vous êtes fans toutes les deux, puisque Agnès...
Et on a 10 ans d'écart, c'est
vous avez 10... Oui, vous êtes de 90, vous, oui. Agnès Hurstel. Vous sautiez sur votre lit en chantant
le chanteur. Je dansais sur Balavoine le soir,
en ayant
caché.
Peur que la famille vous regarde.
On a ça à manger.
Et Maria Porchet disait que ça me permettait d'être en colère comme lui.
Oui, ça avait une fonction. Ouais. Le vendredi soir, quand j'étais seule, entre le retour de l'internat et le retour des parents, je hurlais précisément cette chanson.
En même temps, je veux mourir malheureux pour une petite fille, c'est pas simple.
Ouais, mais ça restait gay comme intention, finalement.
Oui, c'est ça, c'est une intention.
Il ne veut pas regretter.
qu'est-ce qui vous fait tressaillir, vous, Maria Porchet, dans la vie?
La surprise. Alors, vous allez me dire, c'est facile. Qu'est-ce qui me fait... Alors, ça fait un moment que je n'ai pas tressailli. Oui. Voilà, je suis plutôt dans une vie calme et contemplative.
Oui, c'est bien aussi.
C'est très bien. Ouais, exactement.
Je voudrais parler de Michel, votre héroïne. Son premier tressaillement, il vient d'un état nouveau pour elle, puisqu'elle quitte le foyer conjugal. Et contrairement aux idées reçues, c'est pas une libération, c'est pas une joie retrouvée. Je cite un adjectif qui m'a frappé. Vous dites qu'elle est comme arrachée. C'est très très fort ça.
Alors non, elle ne l'éprouve pas comme une libération. Elle aurait pu s'en douter, mais elle a tellement entendu que ça faisait partie de la trajectoire émancipatrice d'une fille. Enfin, la liberté, c'est une promesse encore pour les jeunes filles. Enfin, moi, j'ai été éduquée dans cette idée, dans cet imaginaire-là, que moi, j'aurais à me libérer. On m'a pas expliqué forcément. Enfin, en tout cas, à continuer la libération inaugurée par les femmes de la génération de ma mère, de ma grand-mère, etc. Et que c'était en fait qu'il fallait que j'use de mes droits. Voilà. Mais travailler par cet imaginaire-là, Michel également se dit que. Que c'est l'ultime étape émancipatrice, qu'elle a fini par vivre, pour des raisons qu'on découvre dans le livre, le foyer comme quelque chose d'opprimant, d'abord sécurisant et ensuite d'opprimant et voire de menaçant, et que s'en défaire va ressembler à la liberté. D'autant qu'il y a beaucoup de légendes, enfin de contes urbains, comme quoi la garde alternée, c'est le temps pour soi, etc. Donc elle pense quand même à ça. Et puis finalement, elle éprouve dans un premier temps, évidemment, elle ne va pas rester dans cet état, mais une douleur vraiment animale, quoi, d'être séparée la moitié du temps d'un enfant, d'être arrachée à ses repères, à son environnement, comprendre qu'il s'agira de refaire l'ensemble des repères. Sauf qu'elle ne se souvient pas comment elle les a formés, parce que finalement, la vie qu'on quitte, c'est la vie qu'on a cousue main pendant les... Elle a 40 ans, donc pendant les... Peut-être les 20 dernières années de sa vie, quoi. Elle a fait ses choix, et puis ensuite ses choix l'ont fait. Et elle va défaire tout ça. Et en fait, elle se retrouve dans un état de dénuement et d'effarement, avec encore quelques tressaillements qui sont des tressaillements de peur.
Oui, voilà, il y a différents, on ne va pas tous les citer, mais il y a différents.
Quand je disais que j'étais incapable de faire court.
si, dans vos livres, parfois, il y a des phrases courtes.
Il ne faut pas hésiter à m'arrêter. Hein.
Non, mais j'aime bien vous écouter. Maria Porchet, je voudrais vous faire justement entendre un extrait d'un film qui est sorti un petit peu avant votre naissance et que tous les Français, entre autres, ont vu. C'était Kramer contre Kramer, puisqu'il s'agit de rupture.
Je m'en vais.
Attends, chérie, j'entends rien. Quoi? D'accord, toi aussi, merci beaucoup. Salut, à demain. Vous avez bouffé, vous autres?
J'entends, je m'en vais. Ted, les clés. Tu vois, mes clés.
Quoi?
Et voilà mon chéquier. J'ai retiré 2 000 $ sur notre compte épargne, parce que c'est ce que j'avais en banque quand nous nous sommes mariés.
Bon, je m'excuse d'être en retard. Tu comprends, j'étais en train de gagner notre vie. Tu me pardonnes, d'accord? On arrête maintenant.
Voilà, c'est dit.
Oh! Elle est là. Johanna, ça suffit maintenant, hein? Où tu vas? Mais enfin, dis-moi ce que j'ai fait. C'est...
Ah non. Johanna, si tu fais ça, je te jure qu'un jour, la semaine prochaine, ou même dans un an, j'en sais rien, je te jure que je me fiche par la fenêtre.
Je t'en prie, calme-toi.
Même la version française nous fait encore de l'effet. Ouais. Vous l'avez vu forcément, toutes les deux?
Mais j'en ai aucun souvenir. Oui, mais je sais que je l'ai vu. Je sais que je l'ai vu.
Le regard de
Agnès est plus marqué par Kramer.
Mon film, c'est ça, en fait. C'est une comédie.
Une rupture aussi, mais ce ne sera pas la première fois, parce que Jeune Égalerie, il y a déjà une rupture. Mais Là, il y a une différence entre ce film et votre roman Tressaillir, Maria Porcher, parce que la narratrice ne dit pas chez vous « Pardon, c'est ma faute, je n'y arrive plus ». Ce n'est pas cet état d'esprit.
Enfin, en tout cas, c'est hors champ. En tout cas, ce n'est pas dans le livre. Ça commence à partir du moment où elle va s'agir pour elle de refaire. Refaire sa vie avec le premier épisode, enfin la première séquence d'effondrement total où elle éprouve la difficulté, la souffrance humiliante de se dire mais je vais pas réussir sans un mec, ce qui est inaudible à l'âge qu'elle a, à l'époque où elle est, et où le risque de revenir est encore palpite très très tôt.
Elle va se prendre en main progressivement et vous verrez que tressaillir de joie, c'est aussi possible après une rupture.
C'est d'abord la chimie qui va la prendre en main.
Oui, c'est d'abord la chimie.
Quand il n'y a personne, voilà, il n'y a pas des molécules.
Une petite béquille. Et chez vous, dans Jeune Égolerie, Agnès Hurstel, ce n'est pas tout à fait le même genre de rupture. Ce n'est pas la madame qui s'en va.
Tu m'avais promis qu'on se marierait ensemble, par exemple. Tu m'as jamais demandé en mariage.
On n'en avait rien à foutre du mariage, on était d'accord, toi et moi, c'est quoi ce truc-là?
Eh ben peut-être que finalement, c'est important pour moi, voilà. Mais de toute façon, on n'a plus de projet ensemble, on va plus au cinéma ensemble, enfin sinon c'est toujours avec Alma, on n'a pas de maison de campagne, on n'a pas de compte commun, évidemment on n'a pas d'enfants parce que...
Tu mets compte commun et enfants sur le même plan?
Oui, j'ai envie d'être désiré, je veux créer un foyer, une famille.
Oui, un conjoint, on a compris.
J'aime bien cette idée que vous inversiez le schéma social classique. Comment c'est venu, Agnès Hurstel?
Moi, je trouve ça hyper intéressant de réfléchir au rapport de force en général. Je pense qu'on a ça en commun avec Maria. Et dans l'intimité, il y a des rapports de force entre une mère et sa fille, entre un homme et une femme, entre avec des enfants. Enfin, et c'est ça qui m'intéresse, c'est de rentrer au plus précis, comme une carte postale de la vraie vie. Et donc, dans la vérité des couples, ben, il y a des hommes qui veulent qu'on leur offre des fleurs. Et... Enfin, je veux dire... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter les histoires qui sont déjà endeuillées et comment on fait pour se séparer, malgré la violence, malgré l'adultère, malgré l'amertume, malgré l'amour. Enfin, c'est ça que j'aime dans tes livres, en fait. J'ai l'impression que c'est hyper honnête. Je sais pas si je réponds à la question.
Maria Porcher, la suite de la conversation.
La suite de la conversation. Non, mais j'écoutais dès qu'Agnès parle.
D'ailleurs, pourquoi est-ce Agnès Hurstel?
C'est vrai, voilà, ça.
Votre invité.
J'attendais cette
personne de neuf, mais qui n'était pas disponible.
Parce que je me suis dit déjà que chimiquement, ça allait extrêmement bien fonctionner sur ce plateau. Mais Agnès, elle est importante aussi. Elle est importante pour les mots. S'il y a quelque chose en partage, effectivement, c'est quand tu disais la question de l'étude des rapports de force dans le couple. Je tiens aussi. J'avais pas pensé, mais aussi. Agnès, je l'ai découverte. Elle parlait de gémilité tout à l'heure. Et un jour, mon compagnon me dit, il y a un drôle d'objet sur OCS qui s'appelle Jeune Égolerie, qui est joué, écrit, filmé par une fille qui pourrait être ta jumelle. Et je crois même qu'il dit ton jumeau.
Ah ouais.
Ce qui est assez...
bien nous connaître.
Voilà, c'est qui est assez bien nous connaître sans nous connaître. Et en général, quand on me dit ça, ça me vexe un peu. Vous savez l'idée que... Bah, c'est comment
que quelqu'un vous ressemble. Vous êtes
quelqu'un
unique.
Quelqu'un me ressemble et qui aurait réussi quelque chose que je n'ai pas encore fait, mais enfin. Non, j'en rajoute. Et je regarde ce Jeune Égolerie et je trouve ça... Mais là, justement, je parle toujours de chimie, je sais pas pourquoi. Mais la formule chimique de j'allais dire de cette pièce, de cette série qui est à la fois incorrecte, mais pas provoque, immorale, mais pas gratuitement, qui fait des vannes tout en racontant son époque avec, mais un art du dosage, du très sociologue sans lettres, sociologue sans théoriser, sans...
Je précise que vous avez fait de hautes études de sociologie, Maria Porcher, hein?
Oui, je...
Et que vous l'avez peut-être même enseigné, non?
Oui, je l'ai enseigné, ouais. J'ai été maître de conf, mais pas longtemps. Et voilà, et je m'étais dit, j'espère qu'un jour, parce que moi je suis sur aucun des réseaux sociaux, donc je compte sur la vie pour nous faire rencontrer les gens qu'on doit rencontrer.
Vous avez envie d'écrire ensemble?
Oui, on a envie d'écrire ensemble depuis longtemps, mais on n'a pas le temps.
On va le faire.
On va le trouver. Agnès est beaucoup plus organisée et méthodique que moi, c'est pour ça qu'elle va beaucoup plus vite.
Non, c'est pas vrai.
C'est intéressant que le stand-up vous ait, et le jeu, puisque vous êtes comédienne, Agnès Hurstel, vous ait amené à l'écriture d'autres choses Comme s'il fallait passer peut-être par la scène et les gens devant vous qui réagissent pour tester une forme d'écriture.
Oui, ou alors moi j'ai eu besoin de passer par l'autofiction qui est évidente, même s'il y a beaucoup de mensonges quand on est sur scène, mais il n'y a pas de masque, il n'y a pas de personnage. Puis les chroniques, c'est un peu ça, et puis j'ai bu un peu jusqu'à la lit ce truc-là. Et j'ai eu besoin de démarrer par ce truc d'autofiction pour arriver vraiment à la fiction et ne plus du tout avoir envie de parler de moi.
Qu'est-ce qu'elle permet de plus, la fiction ?
Je sais pas, plus d'ampleur, plus de pudeur. Moi, j'ai appris quoi. Je saurais pas dire, j'ai pas réfléchi. Je suis très lente à comprendre des trucs, je pourrais peut-être vous répondre à ça dans un an.
Moi qui sais sur quel projet elle travaille, elle peut pas. Je pense que ça te permet quelque chose de plus vaste.
Oui, oui, voilà.
D'en dire davantage.
Mais bon, à la fin, ça finit toujours par parler.
De toi.
Enfin, comme tes romans, il y a un truc où on a. 3-4 sujets obsédants depuis toujours qu'on n'arrive toujours pas à démêler. Enfin, moi, quand j'aurais peut-être enfin compris ma mère, par exemple, j'arrêterais peut-être d'écrire. J'en sais rien, ouais. Mais je veux dire, on se débarrasse de questionnements.
Mais ça étend le champ, enfin, en tout cas, les films que tu es en train de faire, ça étend le champ sur ces grands thèmes, quoi, justement.
Ouais.
La mère, l'époque, les croyances, l'éducation des filles, la lutte des genres, tout c'est avec ce ton. Que je qualifiais d'incorrect, à la fois incorrect et profond.
Comment on ose être incorrect, Maria Porcher ?
Alors, tiens, vous pourriez lui poser la question aussi,
ouais,
parce
je
que
la pose
que
à toutes les deux.
Les raisons doivent être.
Mais je pense qu'avec le comique, on se lance peut-être plus facilement qu'avec un roman.
Je pense que.
Dans l'incorrection.
Oui, on nous l'a permis aussi, non ?
On nous l'a.
On a été aimés et sécurisés, non ? Je sais pas.
Vous n'avez pas eu les mêmes parents.
Oui,
hein.
Non. Pas... C'est marrant. Alors oui, effectivement, je pense qu'il faut être aimé, au moins par quelques personnes. Et puis, moi, je me suis demandé pourquoi Agnès avait ce ton-là, cette audace-là. Moi, je me suis dit que tu avais été obligée de t'aimer. Qu'il y avait dû avoir une époque dans ta vie où tu avais été obligée de te materner toi-même. Parce que pour avoir autant d'assurance, c'est pas... il faut avoir fait une démarche envers soi-même. Il faut avoir eu à s'accepter. Enfin, voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est...
Agnès,
produit d'un travail.
Je ne peux pas raconter, mais je... Oui.
Il a fallu vous accepter.
En tout cas...
Dans sa distinction, au moins, dans ses différences.
Il a fallu faire un travail pour comprendre des choses, ou pour outrepasser des douleurs d'abord physiques. Enfin, mais donc, je mélange un peu, là, quand je vous réponds, un mélange entre l'humour et l'incorrection. Moi, j'ai quand même... j'ai plus autant d'audace et de panache aujourd'hui que quand je faisais du stand-up, attention. C'est beaucoup plus simple d'écrire dans de la fiction des personnages que de monter sur scène et d'être folle, quoi. Mais je sais pas pourquoi on se permet ça. Moi, je pense que c'est parce qu'on s'en sent la possibilité. Moi, c'est parce qu'on est privilégié. C'est parce qu'on n'a pas de filtre.
C'est quelque chose... Enfin, moi, ça a été... Mais je suis sûre que pour toi aussi, ça a été longtemps une arme, l'humour. Mmh,
oui,
c'est-à-dire
oui.
Que...
Vous dites même que quand vous étiez petite fille, vous étiez un peu dure avec les autres.
Oui, j'étais agressive, ouais, parce que je n'avais pas encore trouvé la forme plus polissée de l'agressivité qui est l'humour.
Enfin, c'est venu quand
c'est venu... C'est venu progressivement en vieillissant. Je pense que c'est venu à partir c'est venu beaucoup à partir de la lecture. Il y a des auteurs qui sont très formateurs en matière d'humour.
Vous pensez auxquels ?
Je pense à plein de gens. Je pense à tous les auteurs minuit, par exemple, les gens comme Echnoz, comme Auster, comme
Christian Gaillili.
Exactement, ouais. Oui, très bon exemple de cet humour très qui infuse. Qui est à la fois très poli, qui aime l'humanité à laquelle il s'adresse, qui a un humour qui est une manière de décrire davantage en peu de mots.
Et que vous employez dans vos livres aussi, parce qu'on se marre aussi à certains moments.
Oui,
il y a toujours une part de comique chez vous.
Oui, oui, oui. Mais pareil, qui ne correspond pas à une intention. C'est même quelque chose que je dois plutôt réfréner. Il faut que je fasse attention. Parce que ça passe. J'ai parfois la vanne moyenne facile. Voilà, j'ai envie de prêter à mes personnages des punchlines. Parfois, il faut vraiment que je limite.
Et l'éditeur dit là, non, Maria.
Notamment l'éditeur, notamment. Mais moi-même, je contiens.
Votre compagnon et votre premier lecteur
Mon compagnon, oui, en général, oui. Enfin, le père de mon fils a toujours été mon premier lecteur. Mais ce sont des choses qui changent. Par exemple, pour le dernier livre, que ce n'a pas été le père de mon fils, mon premier lecteur, ni pour le. Je crois que ça a été mon éditrice. Ouais, je suis en train de vieillir et de devenir plus sage, plus scolaire.
Agnès dit la même chose, elle est plus sage aujourd'hui à 35 ans. Vous aimez Billie Eilish ?
J'adore.
Alors
vous savez.
Pourquoi on ne l'écouterait pas ?
Génial.
I wish you the best for the rest of your life. Felt sorry for you when I looked in your eyes. But I need to confess, I told you a lie. I said you of my life. Did I break your heart? Did I waste your time? I tried to be there for you, then you tried to break mine. It isn't asking for a lot for an apology, for making me feel I could kill you if I tried to leave. You said you'd never fall in love again because of me. Then you moved on immediately. But I wish you the best for the rest of your life. Felt sorry for you when I looked in your eyes. But I need to confess, I told you a lie. When I said
finalement, vos vraies racines, est-ce qu'elles ne sont pas finalement dans la langue française ?
Oh oui, parce que finalement, les racines, c'est la langue qu'on parle. Et puis, essayer d'écrire une langue très claire pour rendre les choses un peu plus claires, les choses un peu. C'est pour ça que le français qui a des vertus de clarté et de simplicité, j'ai compense tout le côté flou que je ressens.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Qui était cet écrivain ?
Modiano.
C'était Modiano, ouais. On le reconnaît à ses hésitations, ses répétitions, ses mots qu'il cherche. C'était sa première apparition chez Pivot, à Apostrophe, en 1977, pour Livret de famille. Pourquoi cet extrait ? Parce que vous avez fait un documentaire pour la télé sur les écrivains à la télévision, à partir de votre thèse de sociologie sur le sujet. Qu'est-ce que vous recherchiez dans ces paroles devant une caméra ?
Oh, alors là, vous me renvoyez très très loin. En fait, je cherchais un moyen de Je crois que je cherchais un moyen de passer 4 ans dans un sous-sol de l'INA à regarder des écrivains.
Modiano, Leclésio.
Oui, Leclésio. On a des archives depuis les années 60. Hein, donc, on a des archives de Kessel, de Gary, de il y a tout le XXe siècle de la littérature emprisonné dans des extraits remasterisés.
Et qu'est-ce qu'on apprend quand on regarde un écrivain à la télé ?
On apprend qu'ils sont pas faits pour ça.
C'est vrai que c'est étrange de vous interroger après tout.
On apprend qu'ils sont pas faits pour ça. On apprend que c'était peut-être pas forcément la meilleure nouvelle. Est-ce que le fait d'être envoyé à la responsabilité des phrases de ces personnages, est-ce que ça a fait du bien au roman? Est-ce que c'est pas ça qui nous a massivement porté davantage vers le document? Ça a donné une place à l'écrivain qui était peut-être... ça l'a fait un peu descendre,
je pense. Vous pensez que ça a pu provoquer l'autofiction, par exemple?
Provoquer, non, il y a plein d'autres facteurs.
Hypertrophier le moi de l'écrivain.
Oui, en tout cas, ça a fait créer un effet loupe sur ce genre-là. Principalement à la fin des années 90, où la télévision populaire, la télévision intimiste à la Mireille Dumas explose. Naturellement, mécaniquement, elle va s'intéresser davantage aux écrivains qui sont capables de dire « je », qui sont capables d'entrer dans cette parole testimoniale et d'aveu. En tout cas, cette parole-là a été très médiatisée à ce moment-là, le fait que ça n'a jamais cessé. Mais est-ce que de dire que l'un est la conséquence de l'autre, ça me paraît un peu rapide.
Non, mais c'est intéressant de savoir que ça a pu glisser d'une certaine manière en littérature.
Je répondais à un moment de manière un petit peu cavalière, quand je prenais encore pas trop de précautions. Dans ma thèse, je crois que je dis oui, c'est le cas, mais j'en suis plus si sûre aujourd'hui.
Je voudrais encore parler de votre style, mais qu'on l'entende. Et Agnès Hurstel veut bien lire un extrait de Tressaillir.
D'accord.
De Maria Pourchet, son nouveau roman.
À la fin, c'est la chair qui décide. Le mois dernier, ça m'a pété dans les mains. Ça leur a pété à la gueule. Et selon le terme consacré, je suis partie. Partir, c'est pour la galerie. En vérité, on s'arrache. Je me suis arrachée de l'essentiel. De ma fille. De son père. Corps irritant, mais fraternel. Âme distante, mais sœur.
Merci. Ça fait un drôle d'effet de s'entendre, si je puis dire, Maria Pourchet.
Oui, ça fait toujours un drôle d'effet.
Oui, ça fait toujours un drôle d'effet. Ben, on entend
un peu saisi.
Votre
là,
style.
On rentre dans ce ton.
Oui, ce ton. Oui. On rentre dans la tête de Michel, qui peut dire des mots comme péter à la gueule, etc. Plus tard, on va entrer dans la tête du psy, parce que vous aimez, et c'est pas la première fois, changer de point de vue. C'est-à-dire adopter un autre point de vue, puis revenir à Michel ensuite. On aura même une lycéenne qui voit Michel donner une conférence sur l'écriture.
Oui, et l'ex de Michel, le père de la petite fille aussi. Ouais.
Et il y a cette volonté de rentrer dans la tête de chacun, et vous y parvenez d'une manière, je trouve, très étonnante, en tout cas très nouvelle. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de nouveau, ce que vous réussissez à faire. C'est quoi ? C'est le style qu'on change pour chaque personnage ? Oui. C'est une affaire de style ?
Oui, il faut que la langue change. Ça c'est vraiment... c'est le risque, d'ailleurs, de ces textes plurilogales. Quelqu'un qui réussit ça à merveille, c'est Despentes. Elle a quelques livres comme ça...
Vous la citez souvent comme un exemple sur ce plan.
C'est vrai ?
Oui.
Ah bon, c'est pas... D'accord.
Oui, oui.
Oui, c'est en tout cas sur l'art de la parole intérieure, de l'oralité, Despentes, c'est la patronne, quoi. Voilà. Donc moi, ce que je fais, on parlait de chansons tout à l'heure, comme j'ai une bande-son pour chaque livre, en fait, la bande-son, elle va changer.
Ah bon, vous avez une bande-son ?
Pour chaque personnage, oui, par exemple.
Prenons Michel, parce qu'on a beaucoup parlé d'elle, qui vient de rompre.
Alors Michel, quand elle était vraiment douloureuse, j'écoutais de la musique classique, j'écoutais des Stabat Mater, des choses comme ça. Quand elle se tape tous les spectres, les uns derrière les autres, de son adolescence, quand elle revient dans les Vosges, j'écoutais énormément Louise Attaque, REM, c'était peut-être la musique qu'elle écoutait quand elle avait ces âges-là.
Donc ça pulsait.
Voir Manu Chao, enfin, je me suis fait plaisir.
Et ça joue sur votre style.
Vraiment avec un bon prétexte.
Ça joue sur votre rythme.
Oui. Et Lucie, j'ai écouté Damien Seize.
Ah oui.
Pour l'écrire. Et Sirius, je crois que j'écoutais rien.
Et le psy ?
Le psy, j'écoutais rien. C'était le psy, c'est ce qui a. Alors, j'ai eu un consultant. J'avais pas assez de matière pour. J'ai jamais fait de psychanalyse, donc c'était compliqué pour moi. Donc j'ai eu un consultant, le psychanalyste et philosophe Stéphane Habib. Et en fait, la bande son, c'est des conversations avec lui sur les sujets que j'avais envie d'aborder dans les séances de Michel. Et je l'enregistrais lui, et après je réécoutais.
Il y a toujours une sociologue chez vous qui va permettre au livre de s'écrire. Je me demande si la sociologue n'aide pas l'écrivaine Maria Porcher.
Oui, alors la romancière bouffe un peu la sociologue, et ça c'est bien, c'est ce que j'attendais d'elle. Mais oui, elle vient à mon secours souvent, parfois il arrive qu'elle vienne quand vraiment j'ai pas envie et qu'elle relève du mauvais réflexe. Mais oui, on est resté un attelage, oui.
Il y a un personnage qu'on n'a pas cité qui s'appelle Les Vosges. Vous avez grandi là-bas. Il fait partie aussi de Tressaillir.
C'est un personnage, c'est un royaume.
Ouais, c'est un royaume, effectivement. D'ailleurs, vous vous appelez, enfin, Michel se dit la biche de temps en temps. On se croirait entrer dans un conte qui peut faire très peur. Et justement, il y a cette relation que vous avez aux Vosges, en tout cas l'héroïne, Michel, c'est une attraction-répulsion. On la sent menaçante, la forêt des Vosges, on la sent séduisante aussi. La première fois qu'elle fera l'amour, ce sera contre un arbre dans cette forêt. Elle peut avoir peur, comme elle peut apprécier son potentiel érotique. Vous avez toute cette complexité de relation avec la forêt des Vosges, avec cette nature que vous connaissez bien ?
Alors, pas aussi dramatisé que ce que je prête à mon personnage, puisque elle, il s'agit de... Donc, c'est quelqu'un qui a peur et qui doit... qui poursuit une enquête sur les origines de sa propre peur, ouais. Tellement et cette peur...
Elle est née peureuse.
Voilà, c'est
anxieuse.
Comme si elle était née peureuse. Ouais. Et tellement sa peur devient invalidante. Pour tout le monde, pour son entourage, elle est juste une angoissée. Quoi. L'angoisse, c'est-à-dire la peur sans objet. Et puis elle rencontre ce thérapeute dont vous avez parlé, pour qui y a des profils traumatiques, et la peur sans objet, ça n'existe pas. Et donc, il faut juste la chercher. Et elle va la chercher. Donc c'est un peu ramassé, c'est un peu dramatisé, mais oui, j'ai ce rapport. Il y a quelque chose de capiteux dans la forêt. Mais la peur aussi, c'est capiteux. La forêt contient beaucoup de dangers qu'on nous a racontés. Que moi-même je n'ai jamais éprouvé en direct, mais qui fonctionne comme un imaginaire et qui rendent cette expérience capiteuse.
Il y a un homme qui n'a pas peur du tout, je crois, dans la forêt des Vosges, dans les Vosges, c'est le photographe animalier Vincent Munier. Oui, voici ici en plein affût avec notre ami de France Inter, Denis Chessou.
Ouais, mais voilà, le petit perroquet des Vosges.
Avec un gros bec, hein, quand même, hein, c'est ça.
Ouais, c'est ça, ouais, mais il y a un petit côté perruche. Et croiser des sapins. Alors là, on s'approche.
Ah, c'est incroyable. Ça y est, une, deux, combien ils sont ?
Voilà, deux biches.
Deux biches.
J'ai aperçu juste la bande claire le long de leurs pattes.
Ouais. Et là, au-dessus de nous, là, c'est une merveille, parce qu'on a la dernière étoile et le voile bleu du ciel avec un petit peu de rosé qui sort son rouge à lèvres presque.
C'est
là.
Vraiment mes heures préférées de la journée. Hein. Oui. Crépuscule et aube, hein, c'est quand même fou parce que je m'en lasse pas, je fais ça depuis tout gamin, mais dès que je loupe un matin, je me sens pas très bien, il faut que je vive là. C'est un éternel recommencement, quoi.
Alors, est-ce que vous avez ou est-ce que vous éprouvez encore ce genre de sensations fortes ?
Là où il est lui. Lui, dans les Hauts-de-Vosges, près d'un coin qui s'appelle les Hauts-du-Taux, je crois. C'est magnifique. C'est la forêt, pas primaire, mais très, 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 très ancienne. Pour moi, ça fait partie de ce que j'ai vu de plus beau, quoi. La forêt vosgienne à ces endroits-là, ces endroits montagneux, enfin, de moyenne montagne. Oui, ça peut vraiment. Ça m'est arrivé enfant, parce qu'on allait camper avec mon père. Mais juste pour le plaisir de dormir dehors et puis se réveiller en entendant ce type de bruit, ce type d'odeur, c'est des expériences physiques, organiques que j'ai pour la première fois essayé de décrire pour Michel dans le livre.
J'espère oui, parce qu'il y retourne des années après.
Et voilà. Mais c'est donc un aspect de c'est un aspect du lien. Il y a un autre lien. Il y a quelque chose qui a été dégradé, qui a intoxiqué, empoisonné sa relation à ce territoire, et qu'elle va retrouver. Elle va déterrer un cadavre presque au sens propre. Mmh.
Racontez pas tout. Hein.
Non, je raconte pas tout.
On va se faire engueuler.
Qui va. Voilà.
On va encore écouter une chanson, parce qu'on vient d'écouter des petits cui-cui-cui-cui, et la chanson s'intitule L'oiseau, c'est vraiment une transition vaseuse. C'est Solane qui chante magnifiquement L'oiseau.
Je ne regrette pas mon nid ou mon plumage tacheté de gris qui vire maintenant au vermillon. Je ne verrai plus les saisons. Je ne regrette pas ma coquille, mon œuf, ma branche, le ciel qui brille. Je finis ma vie entre des crocs, moi qui l'ai commencé bien haut. Pas déçu, le chat m'a eu, on s'attendait. Mon ciel, j'y ai vécu, j'en viens et j'y retournerai. Ma fin, je suis pas déçu, le chat m'a eu, on s'attendait. De la terre, ces fruits à pâte, mais se payent cher, et tu es celui des vipères. Je ne regrette pas mon envie d'avoir faim et d'aimer la vie. Je n'ai pas vu le chat venir dans les hautes herbes de mes désirs. Ma faim, je suis pas déçu. Le chat m'a eu, on s'attendait. Mon ciel, j'y ai vécu, j'en viens et j'y retournerai. Ma faim, je suis pas déçu, le chat m'a eu. Et c'est très bien. On vole tous en cercle ici-bas. On part, on y retournera. On part, on y retournera. On part, on y retournera.
L'agenda culturel de la semaine qui vient. La sortie au cinéma mercredi d'un film remarqué à Cannes en mai dernier, Sirat, d'Olivier Lax avec Sergi Lopez, prix du jury. Lopez joue un père à la recherche de sa fille disparue. Il entreprend un périple à travers l'Atlas marocain où il va rencontrer un groupe de marginaux. Il est accompagné de son fils et tous les deux vont vivre une série d'épreuves. Sirat est un film inter. Notez aussi la sortie d'un autre film cannois, Connemara, d'Alex Lutz, d'après un ami de Maria Pourchet, Nicolas Mathieu. Le Festival du cinéma américain de Deauville se poursuit jusqu'à dimanche prochain, 51e édition, dont le jury est présidé par l'actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani. Outre les films présentés, on notera mercredi un hommage à Paul Newman en présence de sa fille. Je vous conseille d'ailleurs le très bon livre Paul Newman de Juliette Michaud aux éditions de La Martinière. Vendredi, c'est la fête de l'Huma jusqu'à dimanche à Brétigny-sur-Orge en Essonne. Du beau monde, comme souvent, les concerts de Patti Smith, Youssoupha, Cassius, Eddie de Préto, entre autres, et des conférences de Patrick Boucheron, l'historien, et de Paul Watson, le militant écologiste. Maria Pourchet, j'aime bien demander aux invités un conseil culturel. Vous avez envie de nous conseiller un livre?
Oui, un conseil de lecture. Donc, Daniel Bourion, Le pays dont tu as marché la terre. C'est un petit livre qui est paru à la rentrée chez Héloïse d'Ormesson.
Un premier roman,
oui. Je crois que l'auteur a fait pas mal d'essais avant, notamment sur le cinéma. Donc, il connaît bien la langue et ça fait partie du charme inouïe de ce petit texte. Pour le dire très vite, il raconte l'histoire de quelqu'un qui est passé, même à peine un ami, alors quelqu'un qui est passé dans la même, sur le même territoire que lui, sur la même terre, qui est mais passé littéralement, qui est passé sur le trottoir à côté, qui est passé dans sa classe, qui est passé au large et qui est surtout passé à la marge. Quelqu'un qui s'est effacé progressivement, d'abord socialement et ensuite si je me souviens bien, est mort précocement. Voilà, c'est très simple. Il arrache à l'oubli une histoire comme ça avant qu'elle ne s'efface complètement de sa mémoire à lui. Très très beau travail sur la mémoire. Format court qui rappelle à la fois les bobins des années 80 et les vies minuscules de Michon.
Michon qui est vraiment un auteur essentiel pour Maria Porchat.
Bien sûr, j'espère pour beaucoup de gens. mais on sent qu'il les a lus, mais très très bien métabolisés. Hein. C'est pas à la manière d'eux. Donc c'est une histoire qui parle pas de l'époque, qui pourrait être de n'importe quel âge. C'est aussi humble qu'ambitieux. Ça parle à votre cœur, parce que tout le monde a cette histoire-là. Tout le monde a quelqu'un que son âme a arraché quelque temps à l'oubli, le temps d'une vie, et puis qu'on va oublier définitivement. Et si ça se trouve, on aurait été le seul à pouvoir écrire quelque chose. Et il fait ce travail-là, et c'est surtout, et c'est ensuite esthétiquement, c'est très très abouti.
Ça donne très envie.
J'étais reconnaissante de quelqu'un. J'avais envie de l'écrire, mais le français a de la chance d'avoir des auteurs comme ça.
Mais faites-le. Je suis certain qu'il est dans sa voiture.
Je l'ai fait plusieurs fois et vraiment.
Daniel Bourion, j'espère que vous allez.
Petit texte, pas cher, voilà.
Écoutez, Daniel Bourion, premier roman chez Héloïse d'Ormesson, oui. Le pays dont tu as marché la terre. En face de vous, il y a Agnès Hurstel. Agnès, vous avez envie de parler de qui, de quoi, de nous conseiller quoi?
Moi, j'ai vu cette semaine une exposition hommage au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme.
À Paris?
Oui, à Paris, dans le Marais, qui est un musée génial. Une expo de Pascal Monteil, ce sont des broderies sublimes, à la fois hyper enfantines, des couleurs, c'est hyper ludique, et en même temps, c'est très violent, les scènes décrites, et il a brodé sur des talits ou des torchons, et l'exposition, ces œuvres sont installées au milieu de la collection permanente du musée, qui est un musée génial, que moi j'adore. J'étais très heureuse là-bas, j'ai envie d'y retourner.
Ça s'appelle Les broderies tout simplement de Pascal Monteil, ou il y a un titre?
Je ne sais plus comment s'appelle l'expo, j'ai
pas
acheté
grave.
Le catalogue, non, je ne me souviens plus.
Au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, et puis vous aimez bien aussi la chanteuse Mickey, vous m'avez dit.
Ah oui, j'y vais le 10 octobre au concert, j'adore, je trouve ça super, j'adore ses prestations sur scène à la télé, elle renouvelle vachement un truc, j'adore la DA, j'adore la fille, les textes. Les clips, c'est un peu cul, un peu drôle, un peu bizarre. C'est génial.
Donc un peu nécessaire, quoi.
Ouais. C'est super.
On est vraiment dans un roman de Maria Porchat, dans un futur film d'Agnès Hurstel. Je voudrais qu'on écoute votre père, Agnès.
Quoi ?
Il ne s'agit pas de faire de l'analyse, mais c'est toujours intéressant, les racines. Elle est partie, elle a été la première à partir de chez des Vosges, Maria Porchat. Avec, tout à l'heure, disait-elle, une colère quand elle était enfant. Il y a toujours eu peut-être encore une colère en vous. Mais vous, on ne sent pas tellement de colère chez vous, Agnès Hurstel, parce que vous avez eu notamment un père, j'allais dire impeccable.
L'essentiel de ce que je peux transmettre à mes enfants, ce que j'ai transmis à ma fille, c'est que beaucoup de messages que les enfants ont entendus de leurs parents leur ont rendu l'avenir dramatique. Et je pense aujourd'hui à cette femme dirigeante d'entreprise qui m'a dit « Je me lève tous les jours et je pense à ce que mon père m'a dit quand il m'a dit « T'as de la chance d'être intelligente parce que t'es moche et pas drôle. »
Voilà. J'aime bien cette...
Quand est-ce qu'il a dit
ça. Vous avez fait une conférence un jour.
Oui, j'en ai fait plusieurs.
Et vous avez dit, tiens, je vais faire monter mon père, il a des choses à dire.
Non, mais c'est incroyable. Franchement, je suis soulagée, j'ai eu très peur qu'on m'ait dit ça. Mais c'est incroyable parce qu'il parle en gros dans l'enthousiasme, de l'émerveillement, de la joie, et que c'est ce que je fais toute la journée. Enfin, c'est mon endroit d'écriture. Ce qui est très différent d'ailleurs entre nous.
Quelle est la différence, Maria Porchat?
Bah si je parle, je vais vers la joie. Je commence pas par ça. Voilà, j'ai besoin de raconter le processus de comment on perce la roche.
Mais votre héroïne Michèle, elle va vers la joie.
Ouais. Non mais moi je pense pas je pense que la joie c'est une grâce, c'est une conquête même. C'est comme la légèreté, comme l'inconséquence, comme l'insouciance. On dit qu'on vient avec, si on vient avec, on la perd très très tôt quoi. Et qu'il n'y a pas grand chose qui est fait. Pour qu'on la conserve, donc, c'est vrai que je l'écris pas, non, c'est pas mon endroit, comme tu dis, je la considère pas comme une donnée.
Attends, le prochain roman, attends.
Ouais.
Vous qui écrivez sur la violence faite aux femmes, la violence au sein de la famille, vous avez quel rapport aujourd'hui après vos nombreux livres avec votre famille?
Alors laquelle, la famille dont je viens?
Les parents, en quelques mots malheureusement.
J'ai des rapports profonds et compliqués.
Oui, voilà. Et ça s'appelle être un enfant.
Non, et qui demande encore à plein d'endroits à être soigné. Mais
ça passe par l'écriture, donc vous avez bien de la chance. Merci beaucoup, Maria Porcher. Vous êtes venue pour Tressaillir. Je rappelle
merci
que le livre est dans la première liste du Goncourt. Je remercie Agnès Hurstel aussi qui va faire un film bientôt, mais elle ne veut rien me dire du tout.
Merci. Je vais faire des avocats.
Christophe Imbert réalise cette émission préparée avec Marion Guilbeault. Il y avait aujourd'hui à la technique, là, juste en face de moi, Mathias Alléon. Rendez-vous samedi dans la balade avec Keren Ann à 17h sur Inter et dimanche même heure avec Léa Drucker.
Chic. Ah, je voulais remercier la personne qui m'avait donné les bonbons.
Oui, parce qu'elle a plein de bonbons.
C'est une chaîne accueillante.
Maria Porcher.